Vous écoutez France Culture.
Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour à tous. À bord de l'appareil de l'US Air Force qui survole Hiroshima ce 6 août 1945, ses coéquipiers le surnomment Dutch, mais son nom est Theodore. Theodore Van Kirk, le vieux monsieur qu'il était devenu, installé dans une maison de retraite de l'État de Géorgie aux États-Unis, s'est éteint hier à l'âge de 93 ans. C'était le dernier membre de l'équipage de l'Enola Gay, l'avion américain en charge du largage de la première bombe atomique sur le Japon. Son portrait a été mis en ligne il y a quelques heures sur le site du journal d'Atlanta et l'information a fait cette nuit le tour de la planète web, un certain nombre de sites américains ressortant immédiatement leurs archives. Il faut rappeler que l'explosion avait fait sur le moment autour de 78 000 morts. Fin 45, le bilan sera réévalué à 140 000 morts. Dans les mois qui ont suivi, Theodore Van Kirk a défendu le recours à l'arme atomique, expliquant que ça avait été un moindre mal au Japon et que les pertes humaines auraient pu être immenses sans cette intervention américaine. Sur la nuit en question, raconte le New York Times, Van Kirk avait des souvenirs très précis, pas d'inquiétude sur la capacité de l'avion à larguer la bombe. C'est Van Kirk qui était en charge d'ailleurs de la navigation à bord de l'appareil. Et cela s'est fait sans accroc, pas d'engin ennemi dans le secteur ce matin-là, non. L'inquiétude, continue le journal, résidait plutôt dans cette autre question. L'avion larguant la bombe allait-il lui aussi exploser ? 43 secondes après avoir lâché l'arme, Van Kirk dit avoir aperçu un éclair, puis l'avion a été secoué mais a tenu bon. Après la deuxième secousse, Van Kirk se souvient d'avoir été soulagé. Pas d'être en vie, mais soulagé, dit-il, d'avoir participé à une opération qui allait mettre fin à la guerre. L'avion a alors changé de trajectoire et l'équipage a aperçu le champignon atomique. Plus récemment, en vieillissant, l'ancien militaire avait un peu changé d'avis sur l'arme nucléaire, continue le Guardian. Son expérience de la Seconde Guerre mondiale, disait-il, lui avait apporté la démonstration que la bombe atomique ne règle rien. Il s'était même prononcé en faveur de son abolition, tout en ajoutant, je cite, « Mais si mon ennemi possède cette arme, alors je veux en avoir aussi, et une de plus, si possible. » À mi-chemin, entre Tibet et Easterly, de la dizaine de militaires américains au cœur de ses missions Hiroshima et Nagasaki d'août 45, on retient deux figures, celle de la normalité de Paul Tibet, le pilote du bombardier B-26 dans lequel se trouvait donc aussi Van Kirk, et celle de la folie de Claude Easterly en charge d'une opération de reconnaissance du terrain et qui vécut de tous le plus dramatiquement sa participation au largage de la bombe atomique. Deux figures détaillées dans une tribune sur les nouveaux visages de la guerre parue ces jours-ci sur le site du Nouvel Économiste, avant même la mort de Van Kirk. Paul Tibet poursuivit normalement sa carrière dans l'armée sans état d'âme jusqu'à sa mort en 2007, tandis que Claude Easterly, donc, qui n'était en charge que du repérage et de la météo, n'a cessé de souffrir ensuite. Une souffrance racontée dans une correspondance qu'il va entretenir avec le philosophe allemand Günther Enders, objet d'un livre pacifiste et anti-nucléaire. Mais pour les Américains, ces hommes sont malheureusement devenus des mythes à la gloire du militarisme américain, déplore un éditorialiste américain, lui aussi engagé dans des associations pacifistes sur le site scoop.com au lendemain de la mort de Van Kirk et à quelques jours des commémorations de la catastrophe d'Hiroshima. Je cite « Je me souviens comment mes profs d'histoire ennuyeux et bien peu inspirés nous rabâchaient les oreilles avec le rôle glorieux et plein de courage des États-Unis pour mettre fin à la guerre contre le Japon et avec le recul, J'ai honte d'avoir été si naïf. Pourquoi ne nous a-t-on pas dit que le président Truman savait parfaitement à l'époque que d'autres options étaient possibles, que le massacre de centaines de milliers de civils n'était pas une fatalité, que Tokyo était désespérément depuis des semaines en train d'essayer de trouver une porte de sortie honorable à la guerre par l'intermédiaire de Moscou. Sur un site du journal local japonais Mainichi, on compte ces jours-ci le nombre de pays qui seront représentés mercredi prochain au Japon pour les commémorations du drame. Ce sera le 69e anniversaire. 71 nations ont répondu présentes. Le Cambodge, Chypre, le Libéria, les Maldives et le Portugal enverront pour la première fois une délégation. Israël et l'Iran, note le journaliste, seront aussi présents. Et cela alors que Tokyo doit faire face ces dernières semaines aux critiques de militants pacifistes japonais. Grand vaincu avec l'Allemagne nazie de la dernière guerre mondiale, raconte Libération, le journal éprouvé dans sa chair par le feu nucléaire une fois, une semaine avant de capituler, vit depuis août 45 avec une constitution anti-guerre, une constitution dont l'article 9 stipule que le pays renonce à jamais à la guerre. Sauf, se lamentent certains citoyens, que depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le très nationaliste Shinzo Abe s'est mis en tête de nettoyer cette constitution et d'en expurger ce fameux article 9. Mais au-delà des volontés humaines ou étatiques de se mesurer à l'autre, de dominer ou de détruire l'autre, c'est le caractère monstrueusement machinique d'Hiroshima qui en fait un crime abominable, explique le philosophe Günther Enders Force dans deux essais dont les traductions sortent justement cet été et sont chroniquées sur le site de Slate. La guerre des machines est pourtant aujourd'hui présentée comme une solution. La guerre des robots nous débarrasse de toute perspective humaine, conclut l'auteur de cette tribune intitulée « L'avenir de la guerre » dont je parlais il y a un instant et publiée ces jours-ci sur le Nouvel Économiste. Enfin, nous n'aurons plus à choisir entre la normalité et la folie face à l'horreur. Enfin, nous serons débarrassés de toute perspective humaine, ni Tibet, ni Easerly, ni Van Kirk, pourrait-on ajouter. Mais en attendant, on n'a jamais été aussi loin aujourd'hui de cette guerre industrielle et numérique, zéro défaut, zéro perte. La violence des hommes en guerre, de Mossoul à Abuja, de Kaboul à Alep, de Bangui à Tombouctou, n'a jamais été aussi cruelle, sanglante, physique, incarnée.
C'était la revue de presse internationale de Claire Chaudière.